Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin au micro de France Culture, je suis en compagnie de Florence Hélo pour que nous évoquions ensemble un ouvrage important, attendu depuis des années je dois dire, Chronique de massacre annoncée, et qui est sorti aux éditions Göttner, édition orientaliste habilement pilotée par Mira Prince que nous avions déjà reçue à notre antenne. Alors ce matin nous sommes en Iran, à l'ouest, dans ces régions à cheval sur plusieurs mondes, la Turquie, l'Azerbaïdjan, entre la fin du 19e siècle et surtout le début de la Première Guerre mondiale. Vous allez nous expliquer un petit peu le parcours de ces chrétientés perdues du Hakkari. Florence Hélo, bonjour.
Bonjour.
Vous avez tracé le destin du lac d'Urmia, de ces chrétiens du lac d'Urmia. Ma première question serait sur vous. Comment on tombe sur un tel sujet? Comment on se passionne finalement pour ce bout du monde?
Alors c'est le résultat d'une double passion. D'abord une passion pour les Iraniens, pour avoir vécu en Iran et au milieu d'une population d'une finesse extraordinaire et qui nous a fascinés, mon mari et moi. Et ensuite parce que je suis historienne et j'étais enseignante en lycée. Et quand je suis revenue d'Iran, donc au début des années 80, je n'ai pas imaginé de pouvoir vivre sans rester en contact avec les Iraniens. Et du coup, j'ai continué d'étudier l'iranien aux langues orientales, à l'Institut des langues orientales. Et quand est arrivé le moment de faire une maîtrise, puis une thèse, on m'a proposé comme sujet les Assyro-Chaldéens parce qu'il y avait énormément d'archives sur eux dans les archives du ministère des Affaires étrangères. Et c'est ainsi qu'au milieu des années 80, je suis entrée en contact avec ces Assyro-Chaldéens et que je n'ai plus quitté ce monde.
Et des populations que vous ne connaissiez pas vraiment, voire pas du tout, avant de les découvrir dans les documents d'histoire?
Absolument pas, même leur nom ne me disait rien.
Et en Iran, est-ce que vous en aviez rencontré à l'époque où vous habitiez là-bas?
Non, pas du tout.
Vos premiers voyages dans cet Orient finalement iranien, c'est-à-dire on est complètement à l'ouest, j'ai l'impression, on est après Tabriz. Vous y avez été quand et dans quelles conditions?
Alors après, du coup, j'y suis retournée. Après la révolution islamique, j'ai fait 4 voyages sur place au cours des années 90 et puis au cours des années 2000. Le dernier voyage remonte à 2008.
Et les conditions de voyage étaient comment dans ces années-là?
Sans aucun problème. Une fois identifié par la police, on va dire, j'ai pu circuler grâce au soutien de Monseigneur Thomas sur place à Urmia, et grâce au soutien du clergé aussi chaldéen, qui m'ont donné des guides, qui m'ont fourni des guides, et nous sommes passés de village en village sans aucun problème.
Alors décrivez-nous un petit peu d'abord la géographie peut-être, où sommes-nous et quel genre de paysage avons-nous pour comprendre un petit peu le milieu dans lequel vivent ces chrétiens?
Donc le lac d'Urmia est au nord-ouest de l'Iran, dans la province iranienne d'Azerbaïdjan, le long de la frontière turque, sur laquelle les montagnes s'élèvent à 4000 mètres d'altitude, hein, donc ça monte très rapidement. Et juste de l'autre côté de cette frontière se trouve la province du Hakkari, où résidaient les tribus assyriennes, et dont le destin va être mêlé à celui des populations du Nord-Ouest. Donc on ne peut pas traiter l'un sans l'autre, hein, de cette façon-là. Le paysage est assez sec, sec et montagneux, on est sur un piémont de montagne, avec des vallées extrêmement riches et arrosées, des vergers le long des vallées, le long des rivières qui descendent des montagnes du Kurdistan. Le lac est entièrement salé, et aujourd'hui, en raison des travaux de hydraulique et des barrages, le lac se rétracte tout doucement, hein, perd de sa surface.
Le lac d'Urmia.
Le lac d'Urmia.
Et la grande ville, quel est le nom de cette grande ville?
La grande ville, c'est Tabriz. Alors Tabriz à l'est, mais Urmia ou Urmié qui est à l'ouest du lac, et sont des villes qui connaissent une croissance démographique énorme.
À notre époque.
Aujourd'hui.
Alors que reste-t-il de... On reviendra un petit peu sur l'histoire, bien entendu, un peu plus tard. Je rappelle le titre de votre livre, Chronique de massacres annoncés, les Assyro-Chaldéens d'Iran et du Hakkari face aux ambitions des empires, 1896-1920. Tout de même, un petit éclairage sur la situation actuelle. Est-ce qu'il reste des chrétiens dans cette partie
du monde?
Alors,
il reste à peu près 2500 Assyro-Chaldéens et un peu... peut-être autant d'Arméniens, donc une infime minorité. Et la tendance actuelle est plutôt au départ qu'au développement de ces communautés.
Et vous évoquiez un évêque tout à l'heure, j'ai l'impression, Mgr Thomas.
Oui.
Il est toujours là-bas parce que
oui, Mgr Thomas Merab est toujours donc à Urmiye, enfin Urmiye en persan et Urmia. Et il essaie de maintenir la population, de maintenir les églises ouvertes et de maintenir la jeunesse surtout. Et de réapprendre à cette jeunesse sa langue. Mais c'est une situation difficile.
Et quelle est cette langue?
Alors cette langue, c'est donc le syriaque, qui est une langue dérivée de l'araméen. Langue légèrement différente, puisque c'est l'araméen oriental, enfin le syriaque oriental, légèrement différente de celle qui est parlée à Mossoul ou à Bagdad, de l'autre côté des montagnes. Et donc, le seul point de rencontre de ces populations syriaques, de l'église chaldéenne ou de l'église d'Orient, c'est le syriaque littéraire, puisque les dialectes sont différents de part et d'autre des montagnes.
Et cette langue est une langue maternelle pour ces communautés?
C'est une langue maternelle.
Et qu'est-ce qu'ils parlent comme autre langue?
Alors, ça qui est extraordinaire. Ils parlent bien sûr le persan, mais ils parlent le turc, puisqu'on est dans une province où le turc est dominant. Donc, ils parlent essentiellement le turc et moins le persan. Et ils parlent aussi le kurde. Et donc, quand on passe d'un village à l'autre, il n'y a pas de nom de village. Et pour savoir qui est-ce qu'on allait rencontrer, les personnes avec qui j'étais, qui étaient toujours des chrétiens, appelaient dans toutes les langues. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une richesse fantastique.
Et ils voyaient à ce moment-là dans quelle langue on leur répondait?
On leur répondait, voilà.
Et vous voyagez seul avec des guides locaux? Comment ça se passait?
Oui, je voyage seul et je me promenais seul dans la ville d'Urmia sans aucun problème. Je pense qu'il y a une surveillance quand même policière qui est forte. Et à partir du moment où on est admis, on peut circuler, on circule.
Alors entrons maintenant dans le vif du sujet, qui est l'objet même de votre livre, qui est dans cette collection Cahiers d'études syriaques, donc aux éditions Göttner. Nos auditeurs pourront trouver les références du livre sur la page internet de Chrétiens d'Orient. On est au début de la Première Guerre mondiale. Donc on connaît les massacres dans le cadre de l'Empire ottoman en 1915, bien entendu. La première question qui se pose, est-ce que c'est lié directement aux événements, au génocide arménien?
Alors, pour répondre, il faut faire un tout petit retour en arrière. Les Ottomans réclamaient depuis extrêmement longtemps cette partie iranienne à l'ouest du lac d'Urmia, en disant « cette partie nous appartient ». On appelait dans les chancelleries diplomatiques le contesté iranien. Et les Ottomans ont occupé cette partie entre 1907 et 1912. Donc on a déjà, ils n'ont pas occupé la ville d'Urmia, mais on a déjà une présence ottomane forte qui est contestée par les Iraniens, bien sûr, mais encore plus par les Russes. Parce qu'on est dans une région où les Russes s'avancent vers le sud.
Par le Caucase, j'imagine.
Par le Caucase, c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus faire l'impasse sur ce qui se passe dans le Caucase au même moment. On est vraiment à l'interface de l'Empire iranien, de l'Empire turc et de l'Empire du Tsar russe. Et donc, les Ottomans ont déjà occupé. Et 1912, et quand ils ont évacué à la suite de, d'ailleurs d'un accord qui est passé avec les Anglais, les Iraniens et les Russes, ils ont demandé que les Russes n'occupent pas, ne prennent pas leur place, et pourtant les Russes sont immédiatement venus à leur place. Donc, on devine que dans la montée des tensions liées à la Première Guerre mondiale, et en particulier à la Triple Entente et à la Triple Alliance, on devine que si les Ottomans prennent le parti de la Triple Alliance, donc contre la Triple Entente des Russes, des Anglais et des Français, ils vont refranchir la frontière. Et c'est ce qui se passe au début de 1915. Ils entrent donc dans la province d'Urmia en janvier 1915. Là, il me semble qu'on voit très clairement, en particulier dans les villages, ces espèces de commandos, sans doute créés par Talat Pacha et Enver Pacha, à l'œuvre, donc qui détruisent, qui pillent et qui s'en prennent aux chrétiens et qui massacrent tout le monde.
Il faudrait peut-être rappeler qui sont Talat Pacha et Enver Pacha. Ce sont les chefs militaires et politiques du gouvernement jeune turc à l'époque.
Voilà, exactement.
Et qui font partie des plus excités, disons, pour résumer, de ces gens-là.
Et qui vont sans doute qui vont commanditer le génocide arménien. Hein. Ça, c'est un petit peu plus tard dans l'Empire ottoman. Les villages chrétiens sont la proie de ces commandos, enfin j'appelle commandos, c'est un terme actuel, mais qui sont en avant des armées ottomanes, alors que les officiers des armées ottomanes ont un autre comportement. Et c'est très très visible.
Hein, ça, il faut le souligner.
C'est très très visible dans les archives. Et l'autre originalité, si on peut dire, c'est que les missionnaires restent sur place à Urmia, donc il y a une présence occidentale. Enfin, les Américains sont là, les Français sont là, les Russes sont partis, les Anglais aussi. Et donc, ils vont rendre compte de ce qui se passe. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la ville d'Urmia, les notables afchars, c'est-à-dire ceux qui avaient pignon sur rue et qui étaient gouverneurs généralement, ces notables protègent les chrétiens avec l'appui des missionnaires. Donc, on a une situation inédite, d'une certaine manière. Et les chrétiens qui ont pu se réfugier à Urmia ont pratiquement été peu massacrés.
Alors là, nous sommes en janvier 1915.
Janvier 1915.
Qui est une sorte de première vague de massacres.
Oui. Oui.
Que se passe-t-il après?
Alors, que se passe-t-il après? Les Ottomans évacuent en mai 1915, parce que les Russes reviennent. Les Russes occupent la région de nouveau jusqu'en 1917, date à laquelle a lieu la révolution russe, et les Russes décident de sortir de la guerre. C'est l'armistice et le traité de Brest-Litovsk. Du coup, l'armée russe se délite sur place. Une partie s'en va, mais l'autre se délite sur place. Et les chrétiens qu'ils avaient enrôlés dans leur armée, se trouvent un peu prisonniers du sentiment anti-russe des Iraniens, et qui va se retourner contre eux. Et en particulier, je pense que la plus grosse difficulté est liée à ces chrétiens qui sont venus du Caucase, qui sont d'un peu de toute origine, et qui sont étrangers à la région, qui reste, même une fois que l'armée russe repart, donc au début 1918, et qui pille les jardins, qui massacre, qui tue des musulmans, enfin qui, et dont se plaignent, et le délégué apostolique de l'Église catholique, qui est Mgr Sontag, et le missionnaire qui correspond en permanence avec l'ambassadeur américain, qui est le docteur Shedd. Et ils s'en plaignent, ils disent « il va se passer quelque chose ». Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'historien Kasravi a constaté la même chose. C'est que les Iraniens chrétiens sur place restaient parfaitement iraniens, mais que le danger venait de ces chrétiens venus avec l'armée russe de l'extérieur.
Une sorte de déstabilisation venue d'éléments extérieurs à la zone.
Premièrement, de ces éléments-là, et deuxièmement, de la présence des tribus du Hakkari, des tribus assyriennes, qui ont fui les armées ottomanes après la déclaration maladroite de Marchimoun, qui a dit aux Ottomans en mai 1915 qu'ils se rangeaient du côté des Russes.
Alors Marchimoun étant le patriarche, oui, l'un des derniers patriarches de cette glorieuse lignée de prince-évêque, ou enfin disons de gouvernant qui était dans le Hakkari. Alors dans votre livre, il y a des cartes, hein, je rassure les auditeurs. Ce sont des régions qui sont complexes, mais finalement quand on observe bien la situation, on comprend beaucoup plus facilement les équilibres. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vraiment des lieux de rencontre entre plusieurs mondes. 1915, et nous on connaît la date d'avril 1915 pour le génocide arménien. Est-ce que c'est une date importante pour ces massacres en Iran?
Oui, c'est une date importante parce que c'est plus important pour les tribus du Hakkari que pour les Iraniens directement. Parce que le patriarche Marchimoun, donc qui avait à la fois un pouvoir temporel et un pouvoir spirituel sur les tribus, parce qu'il y a ces tribus chrétiennes qui ont vécu d'ailleurs jusqu'en 1840 en symbiose avec les tribus kurdes, avec lesquelles elles avaient formé des confédérations. Et donc il y a une habitude à la fois de lutte, mais de vie commune aussi avec les Kurdes. Et là, quand Marchimoun, dans le Hakkari, donc tout à fait à l'est de l'Anatolie, se voit ce qui se passe contre les Arméniens, et quand il voit ce qui se passe aussi contre certains villages chrétiens, en particulier de Gavar, ça va être ce qui va... Il prend le parti des Russes. Il pense qu'il n'y a plus rien à attendre, il prend le parti des Russes, et les armées ottomanes, du coup, pensent que c'est un danger de le laisser avec ces tribus-là, donc poursuivent les Assyriens qui franchissent la frontière et qui se retrouvent en Iran. Et dans la région d'Urmia, où la présence de ces tribus avec leur bétail déstabilise aussi la région. Donc on a une double déstabilisation, due aux tribus et due à ces chrétiens venus du Caucase.
Et que se passe-t-il alors ?
Alors, que se passe-t-il ? Je pense que, pour essayer de résumer un peu, le mois de février 1918 est extrêmement difficile. Il voit s'opposer les chrétiens et les musulmans, on va dire. On retrouve ce clivage, malheureusement, qui revient, qui n'avait pas de lieu d'être avant. Les chrétiens sont en plus noyautés par les Britanniques qui leur demandent de former des bataillons pour défendre le front de Mésopotamie. Les chrétiens s'engagent dans ces bataillons en dépit des réclamations du gouvernement iranien qui ne veut pas voir d'étrangers, de bataillons étrangers sur son territoire. Donc l'hostilité monte, et de cette hostilité naît donc une opposition permanente. Les chrétiens sentent que si les Ottomans reviennent, ils ne pourront pas rester. Les Ottomans feront cause commune avec les Iraniens. Et c'est ce qui se produit essentiellement après l'assassinat de Marchimoun, donc du patriarche Marchimoun, réfugié sur le territoire iranien, par un Kurde qui s'appelle Simko, qui joue en permanence une double carte, qui retourne sa veste selon les vainqueurs. Hein. Donc il est de temps en temps avec les Ottomans, de temps en temps avec les Russes. Et là, comme il sent que les Ottomans vont remporter, il pense qu'ils vont remporter la victoire, il repasse du côté des Ottomans, il assassine Marchimoun, c'est en mars. Cela crée un point de non-retour entre les communautés. Et quand l'armée ottomane entre dans Urmia en 1918, en juillet, le 31 juillet 1918, on a de nouveau une série de massacres avec de nouveau la même configuration qu'en janvier 1915, c'est-à-dire des commandos, l'idée de commandos qui massacrent les gens dans les villages et qui massacrent les chrétiens, et des officiers ottomans qui essaient de protéger les chrétiens.
Alors on voit que vous publiez aussi beaucoup de statistiques. Ma première question par rapport à ça serait, est-ce qu'on a une idée du nombre de victimes ?
On n'a pas beaucoup d'idées, non, parce que il y a eu trop de va-et-vient de population.
Il y a trop de... Des proportions peut-être
ou... Peut-être au moins... La population chrétienne d'Urmia a été de 30 000 Assyriens. 30 000 Assyriens. Et ensuite, il en est resté en 1918. Le 31 juillet, il y a 600 massacrés, ça c'est sûr, dans la seule journée du 31. Ils sont restés 1000, peut-être un millier.
Hein, oui, c'est tout de même très très peu.
Oui.
Et ce n'est pas fini, parce qu'on comprend dans votre livre qu'il y a eu des événements aussi en 1919, l'année suivante.
Donc ce millier a été... les Ottomans ont évacué l'Azerbaïdjan iranien donc en automne 1918, après quoi ils ont signé un armistice pour sortir de la guerre. Les populations ont été prises en charge par les missionnaires américains qui recevaient une aide financière des États-Unis énorme. Donc ils étaient une population de réfugiés. Et ils ont aussi, semble-t-il, secouru des Kurdes. Et Simco, donc le chef kurde qui avait assassiné Marchimoun, a joué la carte d'une certaine autonomie contre les Iraniens. Les Iraniens se sont retournés contre Simco et quand la population a pu se soulever contre ceux qui protégeaient les Kurdes, c'est-à-dire contre les Américains qui nourrissaient qui secouraient les Kurdes, la population chrétienne a de nouveau été massacrée. Donc on a un second massacre. Les Iraniens sont intervenus très lentement. Le massacre a commencé le matin. C'était en mai 1919. Et les Iraniens, les autorités iraniennes et Afshar sont venus rechercher, on peut dire, les notables chrétiens, mais pas avant midi. Et du coup, il y a eu beaucoup de massacrés, de nouveau.
Donc il y a eu une protection aussi qui a été mise en place.
Oui, comme en 1915, comme en 1918 et comme en 1919.
Il faut le souligner,
oui.
Non ?
On a une certaine protection, en particulier des propriétaires, donc musulmans, iraniens qui ont protégé leurs villageois, ceux qu'ils avaient l'habitude de voir à leur service.
Alors je rappelle le titre de votre livre, alors un ouvrage qui est très important, je crois qu'il faut le rappeler, qui était, vous travaillez depuis 20 ans sur ce sujet. Voilà, c'est un livre qui a pris beaucoup de temps, beaucoup de soins. Il y a de très très belles illustrations, il y a des statistiques, des références de toutes les sources, bien entendu. Florence Hello, chronique de massacre annoncée. Les Assyro-Chaldéens d'Iran et du Hakkari face aux ambitions des empires. Un livre qui est disponible aux éditions Paul Göttner. Je crois qu'on peut on peut se déplacer soi-même. Donc c'est une librairie qui est dans le 6e à Paris. Ou peut-être même le commander par Internet. Je ne sais pas ce qui est le plus facile. Mais en tout cas, il faut vraiment, pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, je pense se procurer ce livre. Je vous remercie infiniment d'être venu jusqu'à nous. Je remercie Dany Journaud pour la réalisation de cette émission. Philippe Palares, émission que vous pouvez retrouver en podcast sur le site internet de Chrétiens d'Orient. Nous retrouvons maintenant le service protestant de Michel Schaeffer.